Voilà, alors nous sommes repartis et dans ce train, mais Isabelle, il n'y a pas seulement des activités à l'extérieur quand vous vous arrêtez, mais il y a effectivement des activités dans le train. Mais tu nous en parlais tout à l'heure, donc ce train, rappelons-le pour nos auditrices qui nous rejoindraient maintenant, train de la paix qui fait le trajet Helsinki-Pékin et organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté, la WILPF. Et donc, activité aussi à l'intérieur du train. Alors, est-ce que tu peux nous en parler ?
Alors, si notre équipe, on était sur pied de guerre, c'est le cas de le dire, tous les jours, les participantes, elles, avaient des ateliers organisés. Alors, certaines participantes avaient décidé de parler de certains thèmes. Donc, il y en a beaucoup qui ont parlé du racisme. Il y a aussi des ateliers sur l'environnement, sur les questions du travail des femmes. Donc, c'était une sorte de programme. Chaque jour, on pouvait s'inscrire. On pouvait aller voir ce qui se passait dans chaque atelier. C'était complètement libre. Mis à part ce travail, disons, formel, il y avait aussi d'autres activités un peu plus, disons, annexes ou plus récréatives. Disons, au milieu du trajet, les femmes ont décidé de faire, par exemple, la boutique de la paix. Parce que toutes les participantes, évidemment, n'appartiennent pas à la Ligue internationale des femmes, mais font partie d'associations qui militent pour les femmes et pour la paix en particulier. Donc, elles avaient des badges, des mouchoirs, des t-shirts, toutes sortes de choses à vendre pour un petit peu alimenter leur cagnotte. Et ensuite de ça, il y avait aussi un atelier qui était organisé pour la couture, mais pour faire une sorte de gigantesque banderole et du patchwork, etc. Donc, il y avait des activités pour tous les goûts. Puis si on voulait, on n'était pas obligé, donc on pouvait aussi rester dans son compartiment, à lire, à travailler seul. Il n'y avait aucune obligation.
Est-ce que tu peux nous décrire, ou Isabelle, je ne sais pas, un petit peu à quoi ressemblait ce train, juste qu'on s'imagine ? Parce que ces activités, elles ont lieu où ? Il y a un moment, un endroit où on se retrouve dans le train ?
Alors, il y avait juste comme ça, 5 wagons. Les 5 premiers wagons, c'est des wagons, donc des compartiments, couchettes. Après, on avait 3 wagons-restaurants et 2 meeting cars, ça veut dire que c'était des wagons vides, dans lesquels avait lieu la quasi-totalité de ces activités. En anglais, on disait des meetings, donc c'était des rencontres. Puis après, il y avait la couture, la danse, la gymnastique du matin. Enfin, il y avait toutes sortes d'activités là, tout le temps. Et puis après, il y avait encore 4 wagons. Non, encore 5, en fait.
Il y en avait en tout 16, mais 15 pour les participantes. Et le dernier, c'était pour le personnel du train.
Et puis, il y a une sorte de rythme régulier dans la journée. Enfin,
bien sûr,
on dort, on mange, exactement, on discute à des heures précises.
Ouais, exactement, on dort, on se réveille, on va déjeuner en deux services. Et puis après, à partir de 9h le matin, ça partait. Il y avait des horaires. Enfin, chacun s'inscrivait pour diriger son meeting. Et puis voilà, c'était jusqu'à midi. Même, il y en avait toute la journée. Et puis, chacune, après, allait manger à midi, puis on recommençait le soir. Il y avait de nouveau 2 services pour dîner le soir. Et après, alors, c'était souvent très libre. Il y avait même des discos jusqu'à 4h du matin dans les meetings.
Tout en roulant, donc
tout en roulant. Évidemment qu'il faut s'imaginer que dès le moment où on est parti d'Helsinki, on n'a pas arrêté de bouger une minute, en fait, à part quand on a dû attendre que nos passeports reviennent. Mais...
Et puis, quand vous faisiez les arrêts dans les différentes villes, alors par contre, là, vous logiez à l'hôtel, vous n'étiez plus dans le train.
Non, on prenait un petit bagage avec nous. On avait juste un petit sac et on laissait toutes nos affaires dans le train. Donc, on allait à l'hôtel, on avait nos meetings avec les femmes locales. Et quand on venait dans le train, bon, c'était un peu notre roulotte parce que c'était notre home, sweet home qui roule. Et on était très, très contentes de retrouver notre compartiment avec nos petites affaires. Tout le monde a organisé son compartiment. En fait, on était 4 par compartiment et tout le monde s'était organisé sa couchette avec... Bon, l'espace était assez réduit et c'est vrai que certaines ont un peu souffert du manque de vie privée parce qu'on était toujours 4 ou 3 dans un compartiment.
Et puis, est-ce que les femmes participaient volontiers à ces activités ? D'abord, clarifions peut-être une chose. Est-ce qu'il était évident que toutes les femmes inscrites à ce train étaient des féministes et donc avaient vraiment des préoccupations claires sur la défense des droits et une recherche pour la paix, mais d'un point de vue féministe ? Ou bien est-ce qu'il y avait des fois des grands débats sur des points de vue très différents ?
Alors, ce n'était pas forcément toutes des grandes féministes. Il y en avait quelques-unes qui se sont justement peut-être un peu plaintes du manque d'engagement féministe de certaines femmes. Il y a peut-être eu certains meetings qui ont été plus brûlants que d'autres, mais...
Par exemple ?
Oh, je crois que le racisme, quand même, ça a été un des plus... virulent comme ça. Et là, il y a eu vraiment beaucoup de débats là-dessus, parce qu'il y a eu même au sein du train du racisme. Donc ça, c'est débattu largement. Je crois que le nucléaire, c'était aussi un des thèmes qui a quand même, sous toutes ses formes, hein, qui a été beaucoup discuté.
Aussi l'armement, bien sûr.
L'économie, enfin, on ne chôme pas, on n'a pas chômé, on a beaucoup parlé de tout ça. Mais en gros et en résumé, je crois que toutes les femmes qui étaient dans le train s'occupent quelque part de femmes, de problèmes liés aux femmes. Je crois que ça, on peut quand même le dire.
Et chacune de ces discussions, que ce soit, comme vous venez de dire, économie, armement, racisme, avait pour but à la fin d'établir une sorte de petit rapport qui serait ensuite remis à Pékin. Enfin, quel lien il y avait entre les discussions que vous aviez lors des débats à l'intérieur du train et l'arrivée à Pékin ?
Alors le lien, c'est-à-dire qu'en fait la Ligue a préparé son travail sur la paix. Bon, tout ce qui découle de la paix, c'est évidemment diminution du budget militaire des États, diminution de l'armement, etc. Donc tout ça a été compulsé dans un texte et défendu au forum des ONG dans un endroit qui s'appelait la tente de la paix, un endroit où justement toutes les associations qui s'occupent de la paix se sont regroupées. Et ensuite de ça, elles ont pu parler, avoir droit à la parole à la conférence sur les femmes, où je crois que c'était à peu près 10 minutes de parole par la présidente de la Ligue, Edith Battentine, qui a pu exposer le point de vue de la Ligue.
Elle a beaucoup utilisé ce qui avait été discuté dans le train pour ça. Bon, on en parlera peut-être après, mais parce que effectivement tu nous raconteras ça à Pékin, puisque toi tu es à participer à ces événements-là. Donc vous n'avez pas l'impression que c'était des discussions comme ça gratuites? Vous saviez que ça allait être porté quelque part pendant la conférence?
Oui, je crois que ça a beaucoup aussi aidé les femmes qui participaient au train à débattre certains sujets, pour aussi simplement faire décanter certains sujets et apprendre simplement à parler de certaines choses pour les amener dans un forum des NGO où effectivement on n'a pas de temps à perdre non plus.
Donc. Et puis aussi l'idée, c'est que comme les femmes venaient du monde entier, c'était aussi de partager les expériences de chacune, de chaque continent. Et là, on s'est aussi rendu compte qu'entre les États-Unis et l'Europe, on a quand même une vision un petit peu différente de tous ces problèmes. Simplement parce que la culture est différente et que peut-être qu'elles ont la parole plus facile aux États-Unis qu'en Europe. Bon, il faut aussi dire que l'anglais était la langue dominante du train, évidemment, et que là, on a senti effectivement cette pression nord-américaine.
Est-ce que vous vous souvenez d'un débat que vous auriez suivi, soit vous personnellement ou parce que vous le filmiez, ou des prises de position dont vous vous souvenez sont assez claires et nettes à ce moment-là? Je ne sais pas si je peux vous demander ça. On va peut-être se mettre un tout...
Oui, bien sûr. Moi, je me souviens en tout cas qu'à un moment donné, il y a une femme journaliste qui a été très... choquée par le fait qu'on allait dans des meetings dans chaque ville et qu'au fond qu'il s'y passait rien et que où nous menait la Ligue finalement, qu'est-ce que c'était que ces histoires, parce qu'on rencontrait pas de femmes locales à part les femmes déléguées des gouvernements. Et puis là ça a amené un grand débat dans le train où donc on a discuté de qui fait quoi, qui s'occupe de quoi, qui est amené où. Et nous on avait une position très claire là-dessus, c'est que nous on avait vu ce que c'était un ou deux meetings et on a dit bon très bien, ça c'est des grands discours, on en prend un ou deux parce qu'il faut bien en prendre un ou deux, mais qu'effectivement le but c'est quand même de rencontrer des femmes du pays. Donc nous on est souvent partis et on était directement dans la rue essayer de rencontrer des femmes du pays. Donc ça a donné un grand discours dans le train. Enfin, un grand débat dans le train, avec vraiment des pour et des contre, des gens qui disaient non, faut laisser faire la WILP, elle fait son travail, il n'y a pas besoin de contrer ça. Et puis effectivement, la WILP fait son travail, dans le sens où la WILP, son but, c'était quand même d'aller au gouvernement. Et dans chaque ville, l'une partie où toutes les femmes, on a pu aller au gouvernement, jusqu'au Parlement. Et donc ça, en tout cas, ça avait donné un débat qui était assez contradictoire.
Bon, c'était aussi l'information qui était donnée aux participants, parce qu'évidemment tout le monde ne pouvait pas aller au bureau de la WILF qui était dans un des compartiments du train. Donc il y a eu des porte-paroles qui se sont formées, et Bruna Nota, qui est d'origine italienne mais qui vit au Canada, elle s'est chargée de transmettre toutes les informations à tout le monde par haut-parleur, et je vous propose d'écouter ce qu'elle nous dit.
Ok, je suis Bruna Nota, je suis du Canada, et quand je ne roule pas sur le train, Je suis une consultante en développement organisationnel et en structure organisationnelle. Ici, dans le train, il y a eu plusieurs petites tâches qui m'ont été confiées, entre autres l'organisation du groupe de volontaires dont je parlerai tantôt pour le bureau de WILF et la cueillette et la diffusion des nouvelles d'une façon quotidienne, les petites nouvelles du train. Alors, les nouvelles d'aujourd'hui sont que hier on a fait une campagne de fax pour demander aux 42 gouvernements qui sont représentés par les gens sur le train de faire pression sur le gouvernement chinois afin que si vraiment on doit aller avec un train plus rapide en Chine parce que il y a ce problème de timing et logistique qui ne nous veulent pas avant une certaine date, au moins on ne doit pas payer. La campagne a été très bien. On a été dans 3 hôtels à Odessa. C'était assez efficace. Très vite, en fait, on a été capable d'envoyer. Je crois qu'on était tous là, 42. Il y en a quelques-unes qui ont double nationalité, donc ça se peut qu'il y en ait eu plus que 42. Mais je crois que toutes les... Parce qu'on est dispersé dans 3 hôtels, c'est difficile de savoir exactement quel contact on a fait. Mais plusieurs ont fait plusieurs contacts, par exemple à la Chambre des communes, à des MP, à des membres du Parlement spécifiques, etc. Donc il y a eu quand même une activité assez concertée. Plusieurs ont envoyé simplement à un contact clé chez eux qui puis l'aurait diffusé. Donc évidemment, on n'a pas de nouvelles, mais on en aura, j'espère, au prochain arrêt à Almaty, peut-être avant, si on le peut avoir par téléphone.
Est-ce qu'il y a d'autres nouvelles?
Oui, le Steering Committee, le groupe d'organisateurs du train, on est en train de réorganiser la cédule, parce que si en fait on doit arriver en Chine 2 jours en retard, on a encore 2 jours à brûler ici, alors où est-ce qu'on les passe, qu'est-ce qu'on fait, comment... Ils sont en train de retravailler cette cellule-là. Il y a une réunion des porte-paroles ce soir. On aura donc les informations à ce moment-là.
Parce que c'est certain qu'on va avoir 2 jours de retard pour rentrer en Chine.
C'est presque certain. Je crois que la vraie question maintenant, c'est de dire on ne peut pas payer l'argent supplémentaire qu'ils nous demandent pour un train plus rapide. Ils veulent que l'on ait un train plus rapide. On s'est accordé et on a payé le train et le repas sur l'autre. Maintenant, ils nous imposent un train rapide et nous demandent 42 000 dollars en plus pour... on ne peut pas débourser 42 000 dollars comme ça, hein, on ne les a pas. Alors, ça, je crois que c'est le point clé. Je ne crois pas que l'on puisse négocier d'arriver plus tard à ce point-ci. D'autres nouvelles, c'est que les docteurs qui sont à bord nous demandent de continuer à boire beaucoup de liquide et de faire l'exercice parce qu'on va être sur le train pendant des journées entières, donc de continuer à maintenir nos muscles en bonne forme de façon que quand on porte le bagage, etc., on n'ait pas d'accident. D'autres nouvelles, c'est qu'au prochain stop un peu plus long que l'on va avoir, Barbara voudrait avoir une photo de groupe avec le train, donc qu'on s'organise pour ça et peut-être, point de vue journalistique, sera important d'avoir ça. Aussi, une chose importante, à chaque fois que l'on arrête dans les villes, il y a toujours la course au fax pour envoyer les nouvelles, les communiqués de presse, etc., chez nous. Alors, on fait des goulots de bouteilles épouvantables parce que la plupart des bureaux de commerce, bureaux commerciaux des hôtels ne sont pas équipés à avoir 20-30 personnes qui arrivent avec des fax internationaux, etc. Et les lignes téléphoniques non plus. Alors, on est en train d'organiser un arbre, une cascade de fax avec des points clés en deux ou trois endroits en Europe, deux ou trois endroits en Amérique du Nord, un endroit en Amérique du Sud, dans le Pacifique, etc. De façon que l'on ait peut-être une douzaine de fax et qu'à partir de là, à moindre coût et d'une façon plus économique de notre temps aussi, parce que plusieurs d'entre nous n'ont pas pu arriver à des sessions dans les lieux où on s'est arrêté parce qu'on était à l'attente du fax, etc. Alors ça, c'est, on est en train de l'organiser et les gens donnent donc leur point de contact. Il y a encore des communiqués de presse après Istanbul et Sofia qui sont disponibles pour la presse, si les médias, s'ils si en veulent, Ariette, Anna. La liste des participantes est complète, mais on n'en a pas assez. Là aussi, c'était le problème d'avoir une page à la fois photocopiée. On a pu faire seulement une trentaine de copies. Béatrice a pris celle de Genève, donc les vôtres, pour distribuer une fois qu'elle arrive à Genève. Et on, là aussi, on fait des points clés à distribuer. Pittsburgh, Minnesota, etc. Ils s'arrangent pour les distribuer à partir de là. Il y a une caméra qui est disparue. Alors, on la cherche du train. Quelqu'un doit l'avoir emprunté, on ne sait pas trop, mais
c'est une appareil de photo.
Une appareil de photo. Black Vivitar camera. La boutique de la paix a ouvert aujourd'hui et ils ont fait plus de $300 d'affaires en 2 heures de travail. Il sera ouverte entre midi et 2 heures tous les jours, tant que la marchandise dure. On ne peut pas se réapprovisionner ici. Aussi, la couture en coup de bannière sur la paix. Et la couture continue à être assistée de 1 heure à midi à 2 et de 5 heures à 6 heures. Talia demande que qui a eu du matériel en plus de le rapporter parce que là aussi les matériaux sont en demande et il n'y en a pas assez pour tout le monde. On demande de collecter tous les matériaux des séminaires et des sessions qui sont donnés pour pouvoir les mettre dans les archives, peut-être faire une publication. Et dans les nouvelles du soir, on voudrait en faire un résumé. Donc, ceux qui ont organisé des séminaires, en donner un résumé avec leur nom, etc., dans la boîte postale du bureau Wilf, dans le wagon 11. Et il y a beaucoup de séminaires et des sessions qui sont organisées dans les petits compartiments, où on peut avoir jusqu'à 16 personnes dans un compartiment qui a double lit, 8 en haut et 8 en bas. Et il y en a beaucoup qui sont en train de s'organiser, mais ils ne sont pas coordonnés à ce moment-ci. Alors Regina a fait appel que l'on donne les plans que l'on a pour ces séminaires-là, pour qu'on puisse l'afficher, que les gens sachent s'il y a lieu à en faire 2 ou 3 sessions, parce que les 2 salles de conférence sont évidemment pas suffisantes pour toutes les énergies et les ressources que l'on a en place. Je crois que ça, c'est les nouvelles pour ce soir, et on en aura de nouvelles pour demain soir. Merci.
Remue ménage dans le train pour la paix, train de la paix, organisé par la Ligue internationale des femmes pour la paix et la liberté. Alors Isabelle, t'as appris à traduire le russe, n'est-ce pas? Puisque ce qu'on vient d'entendre, tu sais même ce que ça veut dire.
Il ne faut pas trop dire. J'ai appris quelques mots en russe parce que c'était évident que tout le personnel du train Ça faisait à peu près une cinquantaine de personnes. C'était des Russes, donc ils parlaient entre Russes. Et avec nous, ils parlaient un peu l'anglais, mais surtout le russe. Donc moi, j'ai appris à parler un peu avec eux. Et puis, que, juste préciser peut-être que l'interview qu'on vient d'entendre, ça se passait dans un des wagons restaurants. Et que dans un des wagons restaurants, il y avait notre chère Irène qui a un soir, sur notre demande au fond, qui nous a chanté quelques chants mélancoliques de Russie. Que tout ce personnel, évidemment, ils étaient vraiment pleinement, ils faisaient pleinement partie de ce qu'on appelait le peace train, dans le sens où ils ont été avec nous tout le temps. Ils étaient, je crois, très heureux finalement d'avoir aussi pu faire partie de cet événement unique, exceptionnel, qu'on a eu beaucoup de peine à les quitter à la fin. Mais enfin, là, on va entendre la voix magnifique.
Parce que là, donc, ce personnel, avant qu'on entende Irène, est resté avec vous tant que vous étiez donc, dans le train russe. Parce que là, on a entendu par Bruna que vous aviez des problèmes innommables avec les Chinois. Donc, à un moment donné, vous allez devoir changer de train. Et le personnel dont tu nous parles, et Irène en particulier, ça, c'était les gens avec qui vous êtes resté dans le train russe la majeure partie du chemin. Donc.
De Saint-Pétersbourg jusqu'à la frontière entre le Kazakhstan et la Chine, effectivement, où on a changé de train.
Et donc, vous parliez comment avec eux? Parce que si toi, t'as baragouiné quelques mots de russe, ils parlaient anglais, vous pouviez dialoguer avec eux.
Je pense qu'ils ont eu un peu, ils ont eu une instruction d'anglais un peu avant que le train parte de Saint-Pétersbourg. Donc, ils parlaient un petit peu l'anglais. Beaucoup parlaient en allemand parce que normalement, c'est toute une équipe qui fait un trajet, je crois le trajet de Moscou à Berlin. Donc, certains parlaient l'allemand. Moi, j'ai pu parler en allemand avec eux. Et puis, effectivement, sinon, c'était deux, trois mots de russe. On a même à la fin, nous, on avait une valise solaire pour recharger nos batteries, qui était le clou du voyage, parce que sinon, on aurait quand même certaines difficultés, parce que le train avait du 110 volts à certains moments, du 220 à d'autres. Donc, ouais, évidemment, certaines de nos machines n'ont pas supporté le changement. Tandis que le solaire, il était toujours prêt. Et puis, même à la fin, quand il a fallu faire réparer un tout petit morceau de la machine, on a fait appel au technicien, l'électricien du train. On a parlé un peu allemand, un peu russe. Enfin, on se débrouillait avec les doigts, montrant avec le tournevis qu'est-ce qu'il fallait faire. Et puis, c'était des rapports vraiment de travail fabuleux entre ces gens et nous, parce que eux travaillaient dans le train et nous, on travaillait soit pour le film, soit on était là.
Il oui, faut aussi dire qu'on a dû expliquer ce que c'était que la valise solaire, parce qu'au départ, ils ont pensé...
Expliquer à nous aussi, d'ailleurs.
Comme les Chinois, ils ont toujours pensé que c'était un moyen de transmettre de la radio. Et en fait, on leur a expliqué que non, c'était pour recharger les batteries de notre matériel et qu'ils nous appelaient les espions dans le train russe. Ils ont continué à nous appeler les espions quand on changeait les batteries dans la valise solaire.
Alors, campez-nous juste voir un petit peu le décor pour qu'on s'imagine, on s'installe avec vous pour écouter la magnifique voix d'Irène.
Alors, il faut s'imaginer un wagon-restaurant assez luxueux quand même, avec des fioritures, des tas de fleurs, du monde quand même qui est par là, parce que c'est quand même un des lieux, à part le meeting car, c'est un des lieux où tout le monde se retrouve, après ou avant le dîner, que les gens boivent des cafés tranquilles. Qu'eux, ils ont une petite pause quand même, parce qu'il faut avouer que comme il y a deux services, ils sont soit en train de faire à manger, soit en train de faire la vaisselle. Et puis que là, il y a un tout petit moment où effectivement, on a pu attraper Irène. Le train roule, sauf erreur. Et puis, elle nous chante une de ses romances. Уж не жалеют больше ни о чем, и журавли печально пролетая, уж не жалеют больше ни о чем. Стою один среди равнины голой, и журавлей относит ветром даль. Я полон думаю юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Я полон думаю юности веселой, но ничего в прошедшем мне не жаль. Не жаль мне лет растраченных напрасно, не жаль души сиреневую цвет. В саду горит
костер рябины красной, но никого не может он согреть. В саду горит костер рябины красной, но никого не может он согреть.
Ça, c'était la première chanson d'Irène dans le train russe. Nous la entendrons peut-être dans quelques instants. Alors, mais vous êtes dans le train russe et puis après vous allez passer dans le train chinois et là vous allez faire un choix particulier à partir du moment où vous êtes là parce que vous savez que vous êtes coincé dans ce train qui, comme on l'a entendu tout à l'heure, va devoir aller beaucoup plus vite puisque vous avez pris du retard. Vous n'allez pas pouvoir vous arrêter, pas seulement parce que vous avez du retard, mais parce que les Chinois ne veulent pas que vous vous arrêtiez. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ce changement d'ambiance lié au changement de train ?
Parce que le changement de train s'est fait durant une journée. On a dû attendre à la frontière du Kazakhstan dans le train russe pendant de longues heures. Et ensuite de ça, on a dû descendre du train et évidemment qu'on est descendu carrément en rase campagne. Et donc on a dû sauter les marches du train pour pouvoir atteindre le sol. Et là, des bus sont venus nous chercher et nous ont amenés à l'autre train. Mais bon, faut expliquer un peu le passage de la douane chinoise. Là, on s'est fait photographier, chaque participante a eu droit à la photo. On s'est fait aussi fouiller. Et là, elle commençait le stress d'entrer dans ce nouveau train qui a changé aussi un peu de couleur parce que le train chinois avait était plutôt une couleur verte. Les tapis étaient verts, les petits nappons étaient verts, alors que dans le train russe, les rideaux, par exemple, étaient jaunes.
Plutôt chaudes, des couleurs plutôt chaudes.
Et puis le tapis était rouge. Donc là, d'un coup, on tombe dans un train qui est un peu plus froid, avec du personnel aussi un peu plus froid, parce que là, on n'avait pas 50 personnes, mais il y en avait 150. Pour s'occuper de nous surveiller, il y avait deux militaires, il y avait la police et le personnel chinois. Donc nous, on a profité de ces trois jours quasiment carcérales dans le train parce qu'on n'a pas pu s'arrêter à Urumqi comme prévu, parce que les autorités chinoises n'ont pas voulu qu'on s'arrête là. Et donc on a fait ce trajet d'une traite jusqu'à Pékin. Nous, on a profité, notre équipe, de faire des interviews, mais plus spécifiquement de poser la question à toutes les femmes dans leur langue maternelle, qu'est-ce que c'était pour elles la paix, et de faire directement une traduction en anglais, leur traduction en anglais. Donc là, je vous propose d'écouter Annie, qui nous le dit en chinois et en anglais.
Je vis à Pékin, je suis chinoise. Je pense que la paix, c'est 没有战争，没有暴力，没有环境污染，全世界的人都互相友好地对待彼此。 I'm Annie from China, from Beijing, and from my point of view, I think peace is there's no war, no fighting, and no violence, and no environmental pollution, and all the people in the world love each other. And kindly treated each other.
Pour elle, la paix, c'est pas de guerre, pas de combat, pas de violence, pas de pollution environnementale, et que tous les gens dans le monde s'aiment les uns les autres et se traitent bien les uns les autres.